Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver sur le PCC pour un nouvel épisode. Il s'agit du numéro 310 pour les nouvelles d'octobre. Une fois n'est pas coutume, je vais enregistrer ce PCC chez moi, tranquillement. Ça va toujours être avec le Zoom H2, mais ça va être à l'intérieur, voilà, parce que je me suis dit, tiens, pour changer, ça va vous changer un petit peu d'atmosphère. Vous n'aurez pas donc l'ambiance du bois, mais l'ambiance de la maison, de mon bureau, à savoir mon standing desk, puisque vous savez que je travaille debout, voilà, depuis un moment maintenant, je me suis habitué à cette position. Donc, si vous entendez des fois des craquements de parquet, vous sentez que je suis en train de bouger, c'est normal, parce que je suis en train de bouger devant le micro. Alors, traditionnellement, bien sûr, les remerciements pour les sponsors officiels du PCC, que sont Frédéric Pernaud, Bernard Thory, Philippe Buech, ainsi que Hermano Dimicelli via Alertatou qui est passé sur Patreon. Il y a aussi ceux qui ont la formule mécène, donc Maximilien et Mohand, qui sont aussi passés sur Patreon, ainsi que Michel et puis Michael. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Je vous rappelle que l'idée, c'est que si vous trouvez de la valeur dans le PCC que vous écoutez une fois par mois, vous pouvez aller sur patreon.com/lachaineguitare et puis contribuer à hauteur de 1$ par épisode, sachant que je publie un épisode payant, par mois sur la chaîne guitare. Ça vous ferait donc une contribution à la somme astronomique de 2$ par mois, c'est-à-dire même pas le prix d'un café. Donc voilà, évidemment, c'est tout à fait optionnel, c'est seulement si vous trouvez je vous distrais une fois par mois et que ça vaut le coup et que vous avez envie de supporter le projet. Donc on est aujourd'hui le 5 novembre 2015. Je suis en retard, de 5 jours. Puisque en général j'arrive à me débrouiller pour enregistrer le PCC le dernier, voire quand je suis en avance l'avant-dernier jour du mois, mais là ça n'a pas été possible pour la bonne et simple raison que j'étais à Berlin pour un salon de guitare qui s'appelait le Holy Grail Guitar Show. Où j'étais en fait, je suis allé 24 nuits, donc 3 jours du vendredi, samedi, dimanche, et je suis revenu ce lundi matin. Et du coup, entre les derniers préparatifs, etc., et puis sur place, c'était difficile de trouver le temps de faire ça. Donc voilà, j'avais prévenu sur Twitter, mais donc je vous présente mes plus plates excuses pour ce regrettable regret. Alors, je vais vous causer de quoi ? Je vais vous parler d'histoire de geek. Voilà, puisque j'ai un nouvel iPhone, je vais vous parler un petit peu de course à pied. On va aussi faire un point sur la chaîne guitare. Et puis, je vais vous parler de ce que je suis en train de lire en ce moment. Donc voilà, j'ai changé mon iPhone 4S et j'ai pris un 6S. Donc j'ai fait un saut de génération de 4 ans. J'ai pris un modèle 64 Go, sachant que mon 4S précédent était à 32. Donc voilà. Alors ce qui est bien qu'on attend très longtemps comme ça, c'est qu'évidemment on a une impression d'accélération assez phénoménale, donc qui est bien agréable. Et aussi évidemment le même genre d'accélération, en tout cas sur la qualité photo et vidéo, pardon, que ça soit en caméra frontale ou dorsale, je sais pas comment faut dire, parce que voilà, c'est sûr, 4 ans d'écart, c'est énorme en termes de génération de matériel. Alors bon, je me suis rapidement posé la question de Android versus iPhone, sans vraiment beaucoup de conviction, parce que j'étais vendu à l'idée de rester chez Apple. Par contre, donc, en échangeant avec mes petits camarades des Desperate House Geeks, à config égal à téléphone de niveau de gamme à peu près équivalent, on a quand même facilement 300-400 € d'écart, quoi, entre Apple et puis Android. Donc moi ça me paraît un petit peu exagéré. Maintenant quand on change d'OS, pardon, je donne un coup de pied dans le pied de micro, quand on change de téléphone comme ça, ça veut dire migrer toutes ces données, même s'il y en a beaucoup qui sont dans le nuage avec Google et compagnie. Ça veut dire potentiellement migrer toutes ces applications, enfin migrer plutôt, espérer qu'on va les retrouver, voire être obligé de les racheter. Donc ça aussi, c'est des frais. Et tout ça, ça représente aussi pas mal de temps pour changer d'environnement et perdre après l'intégration avec macOS, puisque ça reste mon OS de prédilection, parce que c'est mon MacBook Air là que j'ai depuis 2013. voilà, est ma machine principale sur laquelle je fais tout. Et il y a des choses toutes bêtes hein, au niveau de l'intégration qui sont très pratiques. Là, j'ai par exemple, avec, pour faire le partage de photos, moi, je n'ai pas activé la fonction de partage de photos via Photos, donc, parce que donc, ma machine principale, qui est un MacBook Air, n'a pas une capacité mémoire de masse très, très, très grande. Et je suis toujours en train de faire du ménage. Donc, c'est impossible pour moi d'avoir les photos là-dessus. Ça fait que toutes mes photos, elles sont sur un disque externe ou sur un autre ordinateur. Donc, du coup, quand j'ai besoin de récupérer une photo, bah, je ne peux pas m'appuyer sur la synchro cloud. Voilà, sinon, ça serait répliqué sur le disque dur. Mais donc, quand j'ai besoin de récupérer rapidement une photo sur mon ordinateur bah, pour l'intégrer dans un article, voilà, pour la retoucher et compagnie, avant, voilà, je faisais le truc bien lourdingue de me l'envoyer par mail, la récupérer dans Gmail, l'importer dans l'ordinateur, etc. Maintenant, avec AirDrop, ça fonctionne super, super bien et c'est très rapide. Donc, clairement, voilà, pour ce genre d'intégration, rester dans le même monde, et je ne vous parle même pas de tout ce qui est musique et compagnie, iTunes, voilà. Bon, il reste que ça reste, enfin, il y a un écart de prix qui est assez élevé et qui fait un petit peu mal au cœur. Alors voilà, je me rassure en me disant, bon, bah voilà, hein, c'est juste un écart de prix qu'il faut gober une fois tous les 4 ans. Et après, on est parti pour 4 ans de bons et loyaux services. Voilà, quoi de nouveau sur l'iPhone ? Bon, alors oui, le 3D Touch, bon, voilà, je l'ai essayé une fois ou deux comme ça pour rigoler, je m'en suis pas resservi depuis. Voilà, je pense que c'est sans doute une question d'habitude, il y a peut-être des applications qui vont l'exploiter plus que d'autres, hein. Donc le 3D Touch, hein, c'est une sorte de clic droit avec un menu contextuel finalement, mais revu à la sauce iOS. Une fois qu'on s'en sert, qu'on l'a essayé, on se dit ah bah tiens ouais c'est pas mal, et puis après on l'oublie, voilà, parce que peut-être juste parce qu'on n'a pas l'habitude de l'utiliser, etc. Voilà, donc évidemment super content, l'écran est un peu plus grand, la qualité est un peu meilleure de l'écran, on gagne voilà sur tous les tableaux. Là par contre où je trouve que j'ai pas tellement gagné, mais c'est peut-être aussi le prix à payer de l'écran un peu, l'écran meilleur, les performances, etc., c'est au niveau autonomie. Alors c'est sûr, quand on récupère un iPhone, quand on achète un nouvel iPhone, et évidemment on a tendance à s'en servir beaucoup plus, donc du coup on n'a pas une autonomie, enfin une utilisation qui est standard, puisqu'on s'en sert plus que d'habitude, mais il n'empêche que là j'arrive tout juste à tenir une journée, quoi. Or, il me semble que quand j'avais récupéré, acheté mon iPhone 4S, donc il y a 4 ans, je tenais facilement une journée, voire deux, ou au moins une journée et demie. Et je pense que j'étais à peu près au même niveau de psychopathie d'utilisation de l'iPhone. Donc voilà, peut-être qu'ils ont beaucoup augmenté la qualité de l'écran, la puissance, voilà, qu'ils ont sans doute fait aussi des progrès au niveau de la batterie, de l'économie, mais que ça reste que ça consomme encore beaucoup. Là, par exemple, quand j'étais à Berlin, voilà, je pouvais pas tenir une journée complète. Et pourtant, alors c'est sûr que j'étais sur le Wi-Fi toute la journée, ce qui doit sans doute pas mal pomper. Et c'est sûr que je m'en servais à mort, parce que je postais souvent des photos sur Instagram, ou bien voilà, des synchronisations de photos sur Google pour pouvoir ensuite les poster sur la communauté privée et email de temps en temps, etc. Mais reste que voilà, donc bon, enfin c'est un constat. De toute façon, faut bien vivre avec. Hein, c'est un peu un des mots modernes, l'autonomie de nos chers smartphones. Voilà, vous avez peut-être vu passer aussi que j'ai reçu de la part de IKA Multimédia un micro cravate. Ça s'appelle le iRig Mic Lav, donc LAV, qui se branche sur la prise casque et qui fonctionne très bien. Voilà, là, bon, j'ai pas le temps de regarder comment je pourrais m'en servir pour enregistrer le PCC, mais il y a des chances que je m'en sers, et c'est très raisonnable comme prix, parce que c'est genre 40€, ça vient avec évidemment donc le micro-cravate avec la petite pince que vous pouvez clipper sur votre col, et puis bon, bah, le petit câble, vous pouvez les chaîner l'un derrière l'autre, qui permet d'en mettre voilà, sur deux personnes, et puis de vous filmer par exemple en train de faire une interview et en ayant un très bon son, puisque la voix elle est prise, voilà, comme quasiment comme je vous parle là, avec le micro qui a à 5 cm de ma bouche. Là, il est juste en face, là, alors qu'un micro cravate, il serait en dessous, au niveau de ma gorge, mais au moins on aura un niveau de qualité de audio qui est pas mal. Donc voilà, encore une fois, je suis assez scotché par la qualité des micros, du matériel qui est proposé par IK Multimédia. C'est pas du super haut de gamme, c'est pas du matériel pro, mais à ce prix-là, franchement, c'est très étonnant, quoi. Hein. Quand on voit par rapport avec quoi on commençait à travailler quand on faisait du podcast il y a 5-6 ans, c'est quand même assez incroyable. Voilà, d'ailleurs, à propos de podcast d'il y a 5-6 ans, je fais une parenthèse par rapport à Berlin, où je parlais dans un des derniers PCC que j'allais à Berlin, voilà, pour cette conférence, pour ce salon. Et Yann, que je salue au passage, m'a dit « Ah, ben moi j'habite Berlin, j'écoute le PCC depuis le numéro 18 ou quelque chose comme ça, il faut absolument qu'on se voit. » Donc voilà, bah, ce qu'on a fait donc, le jeudi soir, quand je suis arrivé, il m'a payé une bière, merci beaucoup Yann, c'était bien sympa, puis on a refait le monde un peu du PCC, des startups, de ce qu'ils faisaient, de ce que je faisais. J'ai l'impression que c'est surtout moi qui a placoté, parce que dès que je me mets à boire une bière, je deviens ultra verbomoteur. Donc désolé Yann si j'étais un peu saoulé. Mais en tout cas, c'était bien sympa. Et puis c'est... voilà, c'est marrant de mettre un petit peu de contact direct avec des auditeurs qui suivent le PCC depuis si longtemps. Et ce qui est le plus comique, en fait, c'est qu'il a commencé à écouter le PCC parce qu'il avait le projet d'aller au Canada, ce qu'il a fait pendant 2 ans. Il était à côté d'Ottawa, ensuite il est parti en Inde, et là maintenant il est à Berlin. Et donc voilà, donc on aurait pu finalement se croiser sur Montréal, mais ça s'était pas fait, puisqu'à l'époque j'étais encore là-bas quand lui il y était aussi. Donc voilà, je ferme cette petite parenthèse, c'était le petit côté, non pas nostalgie, mais voilà, c'est marrant, parce que ça rend réel des connexions, bah, finalement, qui ne l'étaient pas jusqu'à présent, parce que je pense pas que Yann m'avait écrit avant de savoir que je passais à Berlin. Et bah voilà, ça fait toujours plaisir. Peut-être que je le rappelle pas assez, hein, mais le salaire du podcasteur, hein, c'est vraiment l'interaction qu'on peut avoir, que ça soit un petit coucou sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, un petit mail, voire un feedback audio, hein, ça fait des lustres que j'en ai pas reçu, mais bon, faut dire que c'est aussi quelque chose que je sollicitais moins. Mais si jamais ça vous tente de raconter votre vie ou de faire une petite capsule audio dans le PCC, vous êtes vraiment les bienvenus. Parlons un petit peu de course à pied. Donc j'ai fait ma dernière séance d'onde de choc chez le kiné mardi dernier, et ça va de mieux en mieux. C'est pas complètement disparu, donc j'ai toujours ma petite douleur au niveau de l'insertion de ma tendinopathie au niveau de l'ischion. Bon, d'après mon kiné, il faut encore laisser passer facilement un mois après la dernière séance pour être pour en bénéficier de la totalité des effets. Voilà, clairement là j'ai pas beaucoup recouru, là en étant à Berlin, puis j'ai pas couru à Berlin, donc j'ai dû courir une fois la semaine dernière, c'est à peu près tout. C'est évidemment très agréable de recourir sans gêne. Voilà, est-ce que la douleur va complètement disparaître? Je ne sais pas. Est-ce que là maintenant, il faut vraiment que je me remette à nouveau au repos complet pour que ça finisse de cicatriser complètement? Mais en tout cas, clairement, la thérapie de l'onde de choc, c'était ce qu'il me fallait. Un petit update au niveau de la chaîne guitare. Alors, comme je suis à la maison, bah voilà, j'ai pu regarder en direct les statistiques sur mon fichier Excel. Donc aujourd'hui, j'ai 213 backstagers payants et 35 gratuits. Donc ils sont en mode en cours d'essai, en cours de période d'essai. C'est-à-dire qu'ils ont bénéficié d'un code promo pour avoir un mois gratuit, que c'est en cours. Voilà, donc ça a pas mal augmenté ces derniers jours, donc je suis assez content. Je pense que c'est la première fois que je passe au-dessus du cap des 210. Voilà, 12 backstagers pro, donc ça c'est hyper kiffant aussi, puisque ça c'est une offre qui est toute nouvelle. Et puis j'espère que surtout que ça va bien continuer. Là j'ai pas signé d'autres backstagers pro à Berlin, bon c'était pas tellement l'endroit, bon, j'ai beaucoup parlé évidemment de ce que je faisais, c'est toujours des moments très riches puisque j'ai l'occasion de parler à beaucoup de luthiers, mais c'était aussi pour moi l'occasion de faire des interviews d'abord, avant de vendre ma cuisine par rapport au pass backstage ou au pass backstage pro. Alors, ce qui était hyper intéressant à Berlin, c'est que donc il m'avait fait venir, enfin plutôt il me payait pour deux présentations que j'ai données, une le vendredi qui était réservée uniquement aux luthiers, parce que le vendredi il y avait ce symposium des luthiers où il y avait deux salles de conférences dans lesquelles il y avait des conférences toute la journée, donc sur des thèmes sur la commercialisation, comment fixer un prix d'une guitare de luthier, sur des choses très techniques au niveau de la lutherie, sur la réglementation, parce que ça devient plus en plus compliqué d'exporter, d'importer des bois précieux comme le palissandre de Rio, parce que c'est protégé par le traité CITES. Donc, même si les fabricants de guitares, en tout cas pour les luthiers, ça représente un pourcentage ridicule des bois qui sont menacés, il n'empêche qu'ils sont sous le coup de la même réglementation et qui, pour eux, des fois, crée des. Pour eux, pour les musiciens d'ailleurs, crée parfois des situations complètement aberrantes, du style. Des musiciens pros qui ont des guitares très anciennes, fabriquées encore une fois par exemple en palissandre de Rio, eh bien vous pouvez très bien vous trouver dans la situation où vous l'achetez aux États-Unis, vous voulez sortir du pays avec. Et vous pouvez pas parce que le bois dans lequel la guitare a été protégée, dans lequel la guitare a été fabriquée, est protégé. Et du coup. Si vous n'êtes pas capable de prouver oui, ma guitare a été fabriquée à telle époque, à tel moment, et c'était avant le traité, eh bien potentiellement ils peuvent vous confisquer, voire détruire la guitare. Donc, il y a eu plusieurs histoires comme ça de musiciens professionnels, qui sont bloqués avec des outils, avec des guitares. Alors bon, je crois qu'il y a eu peut-être une guitare qui a été non pas détruite, mais qui a été abîmée parce qu'ils devaient faire des analyses pour voir si la nacre à tel endroit, etc., était de la nacre naturelle ou pas, des choses comme ça. Je pense pas qu'il de guitare de détruite, mais en tout cas des problèmes avec les douaniers, ça à mort. Il y a même des luthiers qui ont des problèmes du coup pour aller exposer sur des salons en Europe ou dans l'autre sens aussi en allant aux États-Unis à cause de ces traités. Donc ça crée des imbroglios juridiques vraiment colossaux. Et il y avait donc une des conférences qui était d'un membre du ministère de l'environnement autrichien. Qui était là, qui était super intéressant. C'était assez ardu, mais c'était très intéressant. Et donc, moi, j'étais là pour faire une présentation, pour expliquer aux luthiers comment utiliser Internet et les réseaux sociaux pour mieux communiquer. Et en fait, donc, j'ai fait deux versions. J'ai fait une version le vendredi pour parler aux luthiers et une version le dimanche matin. Là, c'était plus orienté pour les musiciens, mais finalement, c'était exactement le même principe. Donc, j'étais très content. Alors c'est toujours délicat de faire des présentations en anglais. Moi en plus, je sais pas pourquoi, mais bizarrement, dès que je me mets à parler anglais, je parle encore plus vite que si je faisais la présentation en français. Je suis un peu speedé. C'est toujours très difficile de savoir si on a été bon ou pas, si le message qu'on a voulu passer a été bien reçu et puis sera bien utilisé derrière. Ce qui me dit que ça s'est plutôt bien passé, c'est qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs luthiers qui m'ont alpagué. Donc quand le salon lui-même a vraiment commencé le samedi matin et le dimanche, pour me dire « Ah, ta présentation était vraiment intéressante, merci d'être venu nous parler de ça, tac, je vais pratiquer telle et telle chose. » Si on est mauvais, en général, on n'a pas de nouvelles, il n'y a personne, c'est rare que les gens viennent vous dire que vous êtes mauvais, ou alors c'est vraiment, vous avez été nul à chier, quoi. Donc, mais par contre, la réciproque est vraie, quoi. Si vous êtes bon, si les gens viennent vous voir, plutôt, c'est que vous êtes bon. Donc, très, très content de ça, ce qui me permet, moi, j'étais ravi, j'étais payé pour ces deux présentations, mais c'était aussi une manière, évidemment, clairement, de faire connaître un petit peu plus la chaîne guitare de manière qualitative. Donc, très content de cette expérience, super fatigant au final, parce que ça fait des grosses journées, on se couche tard, on discute beaucoup avec les luthiers, après je reviens, faut sauvegarder tout ce qui a été mis sur les cartes SD pour les sauvegarder sur les disques durs, bref, j'étais rarement couché avant 2h ou 3h du mat, on se lève assez tôt, pour un total donc de 22 interviews, dont je pense 18 ou 19 en anglais et puis tout en français et le reste en français. Voilà, donc très fatigant, pas tellement physiquement parce que voilà, hein, c'est pas non plus un marathon, hein, mais le fait de faire des interviews, tant que vous l'avez pas fait, vous vous rendez pas compte à quel point ça peut être éprouvant, même si c'est un sujet que je connais bien, que en général les gens me connaissent, etc. De poser des questions, d'écouter ce que la personne vous dit, penser à la prochaine question que vous allez poser ou voir si vous rebondissez, vérifier que ça tourne bien au niveau de l'audio, que la vidéo est correcte, etc. Enfin, c'est le dimanche après-midi vers 3-4 heures, j'avais le cerveau complètement en panade, un petit peu comme si je voyais tout au ralenti. Voilà, bon, reste que ça fait quand même 20 interviews, enfin plus de 10 interviews par jour, c'est quand même un sacré score. C'est pas des interviews très longues, hein, c'est entre 8-10 minutes et un quart d'heure, quelque chose comme ça. Donc, mais voilà, il y avait des gens que j'avais déjà rencontrés, d'autres qui étaient des nouveaux, et puis aussi moult discussions hors caméra, qui permettent de faire avancer le Schmilblick, en particulier des magasins. Il y a un magasin allemand avec qui j'ai pas mal discuté, avec qui on va voir comment collaborer pour qu'ils puissent peut-être offrir des passes backstage à leurs clients ou les offrir avec des codes de réduction, des choses comme ça. Donc tout plein de pistes à creuser, très très intéressantes. Voilà, voilà, je suis en train de regarder. Ah bah oui, je suis déjà à 20 minutes que je cause dans le poste. Voilà, donc Berlin, ça a été ça non-stop. Hein. J'ai pas du tout fait de tourisme. C'était l'hôtel. Donc l'hôtel où je crachais et l'hôtel où était le salon. Et puis quelques restos par-ci, par-là. Et beaucoup de discussions et des très, très belles guitares. Des instruments vraiment, vraiment incroyables. Et venant de toute l'Europe, mais aussi... il y avait deux Japonais qui étaient là, quelques Américains, Canadiens, enfin, et acoustique, électrique, enfin, plein les mirettes. Hein. C'était vraiment un chouette événement. Au même niveau que ce que c'était l'année dernière, où c'était la première édition. Là, c'était la deuxième édition. C'était vraiment top. Voilà, quoi vous dire d'autre aussi. La section lecture, je suis en train de lire Strange Brew, un bouquin écrit par mon copain Julien Bitoun sur le rock, et qui est vraiment bien. Je ne suis pas sûr si c'était déjà le cas sur le PCC dernièrement, le dernier PCC, pardon. Mais en tout cas, je me régale à lire ça. Si vous voulez revisiter votre connaissance du rock et puis peut-être comprendre un petit peu les différents courants ou qu'est-ce qui a été influencé par qui, comment ça a évolué, je ne peux que vous recommander ce bouquin qui s'appelle Strange Brew. Donc, breuvage bizarre, mais le titre, c'est ça. Et c'est chez l'éditeur Camion Blanc. Écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des grosses bises. Continuez à bien écouter des podcasts indépendants et surtout à dire à ces chers podcasteurs que vous les kiffez à mort. Sur ce, à bientôt. Ciao, bye bye.